Alors bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre. Je m'appelle Jade Anchaud, je suis psychologue FSP, thérapeute de couple et sexologue ici au Centre de sexologie et de couple de la Côte. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode qu'on a intitulé « S'orienter autrement, parler des orientations sexuelles ». Donc ce podcast, notre objectif est de créer un espace de réflexion, de partage, d'écoute autour de sujets qui nous concernent tous et toutes, que vous soyez en relation, célibataire ou simplement curieux, curieuse de mieux comprendre votre rapport à la sexualité et aux relations. Aujourd'hui, je reçois Anouk Ogordan, psychothérapeute et sexologue au sein du centre, avec qui on va explorer le sujet des orientations sexuelles. C'est une thématique centrale dans de nombreux suivis qu'on a au centre et qui mérite d'être abordée avec nuance, respect et sensibilité. Bonjour Anouk, merci d'être là. Je suis très heureuse de faire cet épisode avec toi.
Moi aussi, je suis contente d'être là.
Donc pour commencer, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots et,
ouais. Très bien. Donc comme tu as dit, je m'appelle Anouk Ogordan. Je suis psychologue, psychothérapeute, sexologue. Mon orientation de thérapie est la systémie, même si j'utilise pas forcément tout le temps cette valise-là, parce que j'en ai d'autres, comme par exemple la thérapie centrée sur les émotions, ou également des fois des techniques de thérapie cognitivo-comportementale. Mais c'est vrai que ma lecture première, lorsque je reçois un individu, ou une famille, ou un couple, ou autre, finalement, j'ai cette vision, cette casquette systémique.
Ok, super. Et tu peux nous dire ce qui t'a amené à travailler donc sur cette thématique, sur les orientations sexuelles, pourquoi elle t'est chère dans ta pratique?
Alors, je pense qu'avant toute chose, par mon propre bagage familial, ça a été des questionnements qui ont été présents. Que ce soit dans ma famille ou moi-même dans mon adolescence. Et finalement, je trouve que c'est un sujet très actuel. C'est un sujet qui est actuellement aussi politique. Donc je pense que c'est très important, en fait, que ça soit discuté, rediscuté, questionné. Les orientations sexuelles en général.
Et donc, en tant que sexologue, donc une des casquettes que tu as, c'est quoi ton rôle dans les consultations quand un patient, une patiente te parle d'orientation sexuelle? Quel est ton rôle?
Alors, le sexologue, pour moi, a pour rôle, bien sûr, l'écoute. Parfois, un rôle de psychoéducation. C'est-à-dire, on est parfois étonné, mais il peut y avoir des croyances, des mythes. Et donc, c'est très important de parfois déconstruire un petit peu ces croyances, ces mythes, même parfois certaines normes. Et bien sûr, soutenir la personne dans un cadre sécurisant, confidentiel et sans jugement. Donc, je vais généralement accueillir le questionnement de la personne avec bienveillance. On va se poser un peu les questions qui peuvent apparaître surtout à l'adolescence ou en tant que jeune adulte par rapport aux orientations sexuelles. J'offre un espace qui est plutôt neutre, finalement, où la jeune peut parler librement, sans crainte d'être jugée ou d'être influencée, parce que ça c'est aussi très important. On va clarifier les notions liées à la sexualité et au genre. Aider à distinguer par exemple les concepts comme l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'attirance romantique. On en parlera, je pense, après. Puis, comme j'ai dit, déconstruire les mythes ou les idées fausses héritées de l'environnement finalement dans lequel on baigne, familial, sociétal, parfois religieux, médiatique, etc. On va explorer les émotions associées à ce questionnement, parce que parfois il y a des émotions de joie, il y a beaucoup de joie dans des questionnements de sexualité, mais il peut y avoir aussi de la peur, de la honte, beaucoup de solitude, ou parfois même de la culpabilité. Je vois certaines culpabilités vis-à-vis de l'érotisme qu'on peut avoir, ou des fantasmes. Donc on travaille beaucoup sur l'affirmation de soi, l'estimation de soi, le sentiment de légitimité d'être la personne qu'on est.
Ouais, et j'imagine du coup que la thérapie centrée sur les émotions, thérapie voilà, où tu as été formée, ça t'aide beaucoup pour ce genre de suivi.
Absolument. J'ai une patiente une fois qui m'a dit que j'étais une main de fer dans un gant de velours. Et je crois que c'est assez juste de la manière dont comment je fonctionne en thérapie, c'est que si je vois une émotion, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être facile et que je vais crocher, que je vais aller en profondeur. Et pour le patient, c'est très exposant et c'est pas facile d'avoir une thérapeute qui lâche pas. Mais en même temps, c'est aussi avec beaucoup de douceur que je le fais pour que la personne puisse justement déposer tout ça et repartir peut-être plus légère.
Donc avant, tu nous as parlé de plein de termes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas directement défini ce que c'était l'orientation sexuelle. Mm-hmm. Tu as parlé aussi d'identité, de genre, d'expression de genre. Est-ce que tu es d'accord de nous décrire ces trois termes? Comment est-ce qu'elles se différencient? Voilà.
Je vais le faire de manière très scolaire, parce que j'aime bien aussi parfois ressortir les
études. Des fois, c'est la meilleure manière de bien comprendre les choses.
Absolument. Donc du coup, je vais vous ressortir les définitions de l'APA. L'APA, c'est l'American Psychological Association. Et finalement, l'orientation sexuelle, même c'est une définition, donc bien sûr, il y a toujours des biais. Mais partons de ces définitions-là. L'orientation sexuelle, c'est la capacité à ressentir une attirance émotionnelle, romantique ou sexuelle pour des personnes d'un genre particulier, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, etc. L'identité de genre, qui n'est donc pas à confondre avec l'orientation sexuelle, c'est le sentiment interne de se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux. L'expression de genre, qui est souvent associée à l'identité de genre, mais qui est quand même une notion différente, c'est la manière dont la personne va exprimer son genre, à travers son apparence, ses vêtements, ses comportements. Finalement, c'est un petit peu dépendant de la société dans laquelle on est, l'expression de genre. Et j'aime bien parler, ça vient pas de moi, ça vient de mes formateurs à Medipsy, mais parler de comment on performe le genre, parce que c'est une performance, à travers nos vêtements, peut-être notre maquillage, notre manière de se positionner, de parler, etc. Donc ces trois dimensions, elles sont indépendantes. Et une personne peut par exemple être une femme cisgenre, bisexuelle, et avoir une expression de genre masculine.
Et dans tous ces termes-là, t'as pas mentionné le terme queer, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces temps, qui est très politisé, comme tu disais avant.
Absolument.
Et ça, comment est-ce que tu l'expliquerais? Est-ce qu'il se différencie des trois termes? Comment...
Alors, le mot queer, ce que moi j'ai envie de vous transmettre comme définition, après peut-être que vous auriez d'autres manières de le prendre en considération, mais c'est que pour moi le mot queer ça désigne toute personne qui ne se conforme pas aux normes traditionnelles en manière d'identité, de genre et ou d'orientation sexuelle. Mais ce qu'il faut savoir c'est que le mot queer est très politisé et finalement... ça peut aussi faire notion d'une étiquette d'une personne qui est ouverte, fluide et inclusive, et qui rejette les classifications rigides. Je sais que ça peut être controversé, mais je pense qu'une personne cis, hétérosexuelle, qui correspond donc plus aux normes, s'il a cette ouverture d'esprit, si elle a cette ouverture d'esprit, cette volonté de déconstruction et de compréhension, je pense qu'elle peut aussi s'affirmer comme étant quelqu'un de queer. Historiquement, le mot queer signifie « bizarre », et c'était une injure. Et en fait, on s'est réapproprié dans les années 90 ce terme positivement par des milieux militants et universitaires pour en faire maintenant une force.
Super, je ne connaissais pas cette définition du mot queer.
Ok.
Je trouve ça génial, j'adore. Merci pour ces explications, elles sont très claires. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ta pratique. Donc, quelles sont les orientations sexuelles que tu rencontres le plus souvent dans ta clinique? Est-ce que tu en as une ou pas?
Ok. Alors, c'est vrai que je rencontre principalement quand même des personnes hétérosexuelles. Donc, souvent, c'est-à-dire des personnes qui correspondent à un contexte dans lequel ils peuvent avoir un aspect relationnel ou en lien avec leur couple, et leur érotisme, leur décalage de désir. C'est principalement ça que je reçois comme personne hétérosexuelle. Je reçois également des personnes, là je pense plutôt en individuel, qui se questionnent sur leur homosexualité. C'est vrai que c'est plutôt des jeunes. que j'ai déjà reçues. J'ai pour l'instant pas eu dans ma clinique quelqu'un qui se posait la question et qui avait plus de 30 ans. Mais ça pourrait arriver. Parce que je reçois des personnes qui ont plus de 30 ans, qui se questionnent sur des érotismes, sur leur ouverture de leur sexualité, mais qui sont hétéros. Je rencontre des personnes aussi qui sont bisexuelles, mais c'est pas la raison pour laquelle ils viennent consulter, mais ça pourrait, en lien avec par exemple des conflits identitaires, familiaux ou sociaux, mais pour l'instant ça n'a pas été le cas. J'ai déjà rencontré, quand je travaillais à la clinique Belmont, des patientes qui avaient comme orientation sexuelle l'asexualité. Donc ces patientes qui avaient une orientation qui se définissait comme asexuelle avaient comme difficulté d'être dans un monde qui est sexualisé, voire hyper sexualisé. Et c'est encore très peu visible, la sexualité, ou en tout cas c'est encore très stéréotypé comme étant une question de choix ou de célibat, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Et donc du coup, on avait discuté, on avait questionné un petit peu cette asexualité et comment elle se définissait à travers ça et comment elle se sentait à l'aise à travers ça. Parce qu'il y avait aussi parfois des lectures comme une absence de désir ou de libido qui n'est en fait pas le cas. Ce n'est pas un manque de désir ou de libido, la sexualité. Et effectivement, l'autre orientation sexuelle que je peux rencontrer, c'est la pansexualité. Généralement, plutôt chez des personnes militantes qui refusent les cadres binaires. Mais à nouveau, c'est pas la raison pour laquelle ils viennent en sexologie.
J'ai envie, pour clôturer ce podcast, pour les jeunes ou les adultes hein, qui écouteraient ce podcast et qui se questionneraient sur leur orientation, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, de leur partager ici ?
Alors, je réfléchis.
Pas de soucis, prends le temps.
Je pense que déjà, ce qui est important, c'est qu'on ne vient pas en thérapie dans l'idée de vouloir changer son orientation sexuelle. Je ne fais pas de thérapie de conversion, c'est d'ailleurs au contraire censé être interdit désormais en Suisse. Je sais que ça peut engendrer des difficultés à cause des normes encore très hétéronormées de notre société. Et donc du coup, il est possible qu'on ait des ressentiments de souffrance, un sentiment de rejet, de non-acceptation, de solitude. Et c'est de ça dont on va parler. Donc finalement, et c'est pour ça que je suis les deux casquettes, à la fois sexologue et aussi psychothérapeute, c'est beaucoup de la psychologie qu'on va faire, beaucoup de l'affirmation de soi, de l'acceptation de soi, de la compréhension de soi, du développement de soi, plus que de la sexologie pure et dure, comme je peux avoir aussi dans le cas où il y a, par exemple, du vaginisme ou des troubles érectiles. Quand on vient en lien avec l'orientation sexuelle, c'est pas sur l'orientation sexuelle directement qu'on va faire l'axe de thérapie. Et puis peut-être, pour finir le podcast, la dernière chose que j'aimerais dire à ces jeunes ou ces adultes sur le questionnement de leur orientation, c'est que tout d'abord, c'est normal, c'est sain de se poser des questions. L'orientation sexuelle peut évoluer dans le temps. Qu'il n'y a aucune urgence à se définir. On peut rester dans le flou, expérimenter, changer. Que ce questionnement, ça ne signifie ni des confusions, ni des problèmes psychologiques. Et qu'il existe des professionnels formés pour accompagner sans jugement, ainsi que des groupes de soutien.
Ok, merci beaucoup Anouk.
Je t'en prie.
Pour ces explications vraiment passionnantes, riches. Si cet épisode a fait écho à ce que vous vivez ou vous a donné envie d'en parler, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site du centre www.sexologiecouple.com. Merci pour votre écoute. C'était le deuxième épisode du podcast du centre. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.